Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez.
De retour à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avant de nous envoler pour Nouakchott. Et oui, nous allons enregistrer deux émissions spéciales en Mauritanie. D'ailleurs, vous qui nous écoutez dans la capitale mauritanienne, sachez que demain, nous enregistrerons une émission en public à 10h au Centre culturel de la région de Nouakchott, près de 3 ans après la première transition pacifique du pays. Quel bilan dressez-vous des actes posés par le président El Razouani? Je vous attends évidemment très nombreux demain. Venez prendre la parole demain à 10h au Centre culturel de la région de Nouakchott. Mais pour l'instant, nous continuons à parler de votre pouvoir d'achat. Les prix des denrées alimentaires flambent. Alors vous me direz, oui, dans de nombreux pays du continent, des mesures ont été prises pour tenter d'atténuer les effets de l'inflation. Mais ces mesures sont-elles efficaces? Vos témoignages, vos réactions et l'analyse de nos invités. Aimé Coison, directeur général du commerce intérieur ivoirien. Jean-Baptiste Coffi, président de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, et en ligne de Dakar, Olossib, conseiller régional du programme alimentaire mondial pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose, messieurs, de passer tout de suite au standard. Il y a beaucoup de témoignages, de réactions d'auditeurs, notamment Maurice, qui est à Ouagadougou. Bonjour Maurice.
Bonjour Juan.
Et vous disiez qu'au Burkina Faso, si les prix continuaient de grimper, il y avait des risques de tensions sociales.
Oui, bien sûr, il y a des risques de tension sociale. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu cette tension sociale-là à cause de la hausse des prix. Et vous savez qu'au Burkina et dans les pays des 3 pays du Sahel, comme le Niger, le Burkina, le Mali, on est pratiquement, les populations sont face à 2 ou 3 feux. Il y a le feu, bien sûr, de la pression des hausses des prix et aussi la crise sécuritaire avec ses corollaires de difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de populations qui travaillent dans les communautés rurales, mais à cause de la situation sécuritaire, elles ont été déplacées. Certains ont vu leurs champs brûlés par les terroristes. Donc, ce qui fait qu'actuellement, il y a beaucoup de difficultés de cultiver. Donc, face à toute cette pression, les populations sont désemparées et la moindre étincelle peut créer de la tension.
Des tensions. Oui, vous parlez de tensions sociales. La flambée des prix alimentaires accroît les risques de troubles sociaux sur le continent africain. Voilà ce que disait il y a quelques semaines le Fonds monétaire international, Olossib du PAM. Est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui des émeutes de la faim comme en 2008?
Déjà, les hausses que nous avons en 2022 sont largement au-dessus des hausses que nous avions eues en 2008. Il faut aussi prendre en considération le contexte que vient de décrire notre auditeur. On est dans un contexte déjà d'insécurité alimentaire élevée dans la région. Si vous prenez l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est plus de 40 millions de personnes qui ne savent pas d'où viendra le prochain repas. Donc c'est déjà une situation extrêmement difficile. Et donc dans ce contexte-là, une hausse des prix affectera le pouvoir d'achat de la majorité des personnes qui sont déjà dans une situation très difficile. Et donc, il ne faut pas effectivement occulter le risque de voir dans certains pays, comme on l'a vu en 2008, des tensions sociales qui augmentent dans ces pays.
Oui, des émeutes de la faim, on s'en souvient, dans une trentaine de pays à travers le monde, notamment sur le continent africain, mais aussi dans les Caraïbes. Jean-Baptiste Coffi, vous qui représentez les consommateurs, vous nous disiez constater au quotidien une grogne, cette grogne montée chez les consommateurs. Est-ce que vous aussi, vous vous dites aïe, 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 il peut y avoir des tensions sociales?
Effectivement, il y a risque de tensions sociales. Vous savez, nous sommes dans un ensemble économique. Alors, donc, si les pays du Sahel sont en difficulté, nous avons des problèmes pour nous approvisionner en bovins et au vin. Fort heureusement, peut-être pour la Côte d'Ivoire en matière de vivriers, notre difficulté majeure, c'est la saisonnalité des produits. Bon, qui nous permet peut-être de nous adapter en changeant un peu d'habitude alimentaire.
Vous diriez que beaucoup d'Ivoiriens ont modifié leurs habitudes alimentaires depuis quelques mois.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour rentrer dans la gestion du budget familial. Vous êtes obligé de modifier certaines habitudes alimentaires en fonction de la saisonnalité des produits. Si vous voulez vous entêter à manger ce que vous voulez, ben vous allez payer le prix qu'il faut.
Ouais, Elena nous a écrit du Cameroun. Nous consommons moins de poisson et de viande. Les produits comme le pain et le riz sont difficilement accessibles. D'ailleurs, certains ménages ont diminué, voire même supprimé la consommation de pain. Aimé Coison, ces tensions sociales, j'imagine que vous les prenez en compte au sein du commerce, au sein du ministère du Commerce.
Mais effectivement, c'est pour ça que je vous dis, tout ce qui se fait contre la vie chère par le gouvernement de Côte d'Ivoire, qui sont autant des mesures, je dirais, immédiates et des mesures structurelles pour améliorer l'offre des produits vivriers, pour améliorer la santé des populations avec la gratuité ciblée dans le transport, permet justement, je dirais, de répondre aux attentes des populations. Et je vous ai dit, l'une des actions fondamentales que le gouvernement mène dans le cadre de la lutte contre la vie chère, c'est la concertation permanente. C'est parce que nous sommes, je dirais, en contact permanent avec l'ensemble des acteurs du monde de la consommation que nous arrivons aujourd'hui à obtenir des résultats qui permettent à la Côte d'Ivoire de pouvoir statistiquement montrer qu'il y a des résultats.
Alors, Aimé Coisan, vous parlez justement de votre pays, et c'est normal, à juste titre. On a Olivier, il est à Abidjan, et Olivier dit avoir très peur pour l'avenir. Bonjour Olivier.
Bonjour Anne.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Je le disais, j'ai très peur pour l'avenir, parce que comme on le dit, les prix ont augmenté, c'est la paupérisation. C'est vrai que notre responsable dit qu'on a des résultats. Les résultats sont où? Aucun prix n'a diminué. Aujourd'hui, si vous allez sur le marché, les mêmes prix-là sont toujours là. Comment se fait-il qu'on dit qu'on a des résultats? Tu ne peux pas dire aux enfants, parce que les prix ont augmenté, vous n'allez pas manger à midi. Vous voyez? Donc moi, je dis quelque chose. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire aille jusqu'à la solution. La solution, c'est quoi? Nous parlons de l'offre et de la demande. On dit d'augmenter les salaires. Même si on augmente les salaires à 1 million, et nous n'avons pas la production, le million ne peut pas suffire à nourrir la famille, c'est clair. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons le cours d'eau et qu'on n'investit pas véritablement dans l'agriculture vivrière? Voilà notre problème.
Oui, ça veut dire qu'il faut privilégier la production locale pour, au final, manger local. Olivier, restez en ligne, je vous présente Ousmane. Il est au Sénégal et il pense exactement la même chose que vous. Bonjour Ousmane.
Bonjour Juan.
Merci de nous appeler du centre.
Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes vraiment au centre du Sénégal et vous disiez dans le commentaire que vous avez envoyé, s'il y a bien une leçon qu'il va falloir tirer de cette crise actuelle, c'est à terme, il va très vite falloir produire local.
Alors, je pense fermement que pour relever les défis au niveau de l'Afrique, il faut consommer local. Et cette consommation locale doit nous prévenir de l'agriculture. Donc, je pense que nos États doivent véritablement investir au niveau de l'agriculture parce que nous, au Wallo, dans le nord du Sénégal, nous avons la terre, nous avons le soleil et nous avons l'eau, lac de guerre qui se trouve dans notre localité et des terres fertiles. Donc, je pense que l'État doit aménager les terres, accompagner les agriculteurs qu'on quitte du monde paysan vers l'agriculture proprement dite.
Et vous-même, Ousmane, à votre niveau, est-ce que vous cultivez quelques produits?
Ici, dans nos villages, nous cultivons du manioc, de la patate douce, de l'arachide, du tomate et des cultures maraîchères. Et cela nous permet de vivre aisément, de vendre et de prendre une partie et de vivre avec.
Ouais, je vais donner la parole dans un instant à Olo Sib qui est en ligne de Dakar. Aimé Coisan, directeur général du commerce intérieur ivoirien. Je vous lis ce commentaire qui nous vient du Burkina Faso. Abdoul, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons, mais nous avons préféré l'importation et voilà les conséquences.
Oui, bien entendu, l'inflation importée est une problématique sur laquelle le gouvernement a clairement identifié et pris en charge, je dirais, l'offre nationale. C'est vrai que les attentes sont fortes et nous disons que parce que nous avons pris en compte ces problématiques, que nous avons, je dirais, une pression qui est contenable aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Mais est-ce qu'on ne peut pas développer davantage la production agricole locale?
Mais c'est vraiment dans notre programme. Quand vous regardez le PENIA, le programme national ivoirien sur l'alimentation, oui, ce sont des actions concrètes qui sont menées. Récemment, dans les dernières mesures du gouvernement, il y a un appui à 500 coopératives du vivrier, une allocation de 2 milliards qui ont été faits au profit des actrices du vivrier pour améliorer l'offre locale. Donc ce sont des questions qui sont réellement prises en charge. Nous travaillons non seulement sur l'offre agricole, nous travaillons également sur les circuits de distribution, parce que je dirais, il y a un véritable programme, je dirais, d'un réseau de développement des marchés de gros, des marchés de détail, la conservation des produits vivriers. Donc il y a un ensemble d'actions qui sont menées pour qu'à terme, je dirais, d'ici 2025, la question de l'offre des produits vivriers, la question de la conservation des produits vivriers, du transport,
tout sera réglé d'ici à 3 ans.
Nous pensons que nous allons apporter des réponses structurelles qui seront perçue par la population ivoirienne.
Olusib, du programme alimentaire mondial, comment avez-vous réagi aux deux réflexions des deux derniers auditeurs, à savoir Ousmane au Sénégal et Olivier à Abidjan ?
Au niveau du programme alimentaire mondial, nous partageons tout à fait ces deux points de vue. Nous, le PAM et d'autres acteurs des Nations Unies, sommes engagés pour que les accords de Malabo puissent être respectés et que au moins 10% soient investis dans la production agricole.
10% du budget de l'État doit être investi effectivement dans la production agricole. C'est l'engagement qui a été pris hein, à Malabo il y a déjà, vous me rappellerez l'année, Olusib, 10 ans, 15 ans
10, 15 ans et on en est aujourd'hui depuis 2005. Mmh. Mais je peux vous dire qu'à présent, il y a très peu de pays qui ont atteint ces 10%. Et en 2008, nous avons été frappés de voir que pour la sous-région ouest-africaine, il y avait seulement 2,9% du budget qui a été effectivement engagé dans l'agriculture, alors qu'après la crise alimentaire de 2008 et la crise des prix, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait plus d'investissements dans le secteur agricole.
Olusib, restez avec nous évidemment en ligne de Dakar. Mes invités, mes croisants et Jean-Baptiste Kofi sont toujours ici à mes côtés dans la capitale économique ivoirienne. Aldo, lui, est dans le département des plateaux au Congo. Bonjour Aldo.
Bonjour Juan.
Vous souhaitiez justement prolonger la discussion autour de la nécessité pour de nombreux pays africains de se lancer, de favoriser l'élevage local, l'agriculture locale.
Oui, exactement Juan. Pour ce qui est du cas du Congo-Brazzaville par exemple, nous comptons à peu près 10 à 12 millions de terres arables, dont moins de 5% exploitées pour l'agriculture vivrière. Et on a lancé beaucoup de projets, le visage agricole, on a des dizaines de milliards qui sont partis en fumée. Et ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y a eu un accord avec le Rwanda où 12 000 hectares sont accordés pour essayer d'atteindre l'autonomie alimentaire. Rwanda. Or, nous avons des petits fermiers qui se débrouillent pour faire face à l'inflation, à la pénurie d'équipements, d'intrants et aussi de la formation. Et nous voyons qu'il n'y a aucun service pour la conservation et la transformation des produits dans nos marchés ou dans nos communes rurales. Et on se débrouille artisanalement comme si nous étions encore au XIVe siècle.
Ouais, donc ce n'est pas tout d'encourager la production locale. Encore faut-il que ces produits soient transformés sur place. Parce que si on les exporte pour ensuite les importer, on imagine bien la répercussion que cela aura au final sur le prix de vente sur le marché.
Exactement, Juan. Mais nos cultivateurs et nos fermiers locaux ne sont pas encouragés. Je prends un exemple. Il y a un jeune agriculteur, Rufin Kimanga, qui investit beaucoup avec ses fonds propres et qui même va au Rwanda pour son expertise. Et nous trouvons quand même bizarre qu'on nous fait venir des Rwandais ici pour lancer l'agriculture congolaise.
Ouais, alors qu'il y a certainement des Congolais compétents pour le faire.
Très compétent.
Ouais. Merci Aldo de ce témoignage. Bonne journée donc dans le département des plateaux. Je vous lis le commentaire d'Ibrahim. Tiens, je vais faire réagir Olusib à ce commentaire. Ibrahim, il est au Burkina Faso. Il nous dit ici, cela, en parlant de la flambée des prix, cela a commencé avec la fermeture des frontières en raison du Covid. Mais malgré la réouverture des frontières, on constate que la hausse se poursuit. Exemple, l'huile végétale marque Aya, qui était vendue 3000 francs les 3 litres, est passée à 5000 francs. Il en est de même pour le riz, le sucre, le lait et ainsi de suite. Voilà donc des exemples bien concrets. Olusib, il est clair que la fermeture des frontières a eu des conséquences sur la flambée des prix pendant la crise sanitaire.
Et je voudrais faire remarquer que jusqu'à présent, officiellement, les frontières terrestres, ne serait-ce que dans l'espace CEDEAO, sont toujours fermées. Donc la fermeture des frontières, compte tenu de l'importance du commerce transfrontalier, notamment des produits agricoles, a eu un effet important sur la production. La fermeture des frontières a aussi bloqué le mouvement de la main-d'œuvre agricole et ceci a fortement affecté la production agricole dans plusieurs pays de la région avec des baisses importantes qui ont été rapportées en 2021 comparé à 2020, qui effectivement explique pourquoi l'approvisionnement de beaucoup de marchés dans la région sont faibles comparé à une année qui peut être considérée comme une année normale.
Donc il y a des marchés, si je comprends bien, Olusib, hein, qui ne sont pas suffisamment ravitaillés, ce qui crée donc une sorte de pénurie de produits sur ces marchés, et donc par ricochet, une augmentation des prix, parce que moins le produit est sur le marché, plus il est cher.
Tout à fait. Oui. On a des marchés qui ne sont pas suffisamment approvisionnés. Il y a des marchés qui sont même fermés à cause de l'insécurité dans certaines parties du Sahel où les gens n'ont pas accès à ces marchés. Il y a des marchés qui ne sont pas bien approvisionnés parce que l'infrastructure, les routes ne sont pas de bonne qualité. L'enclavement fait que ces marchés sont coupés des circuits d'approvisionnement et tout ceci, effectivement, explique ces hausses de prix qui sont observées.
Oui. On repasse au standard, ce sera certainement peut-être le dernier auditeur, on verra le temps qu'il nous reste au final. Gabriel, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Libreville au Gabon et vous disiez avoir modifié vos habitudes alimentaires.
Ben, on a modifié les habitudes alimentaires par rapport à l'offre sur le marché. Et un des produits emblématiques de la consommation locale, c'est des produits relevant de la farine, dont la baguette de pain. La baguette de pain qui habituellement devrait peser 200 grammes et coûter 125 francs, elle a fait récemment objet de spéculation de la part des boulangers qui voulaient augmenter le prix. Mais le prix a été maintenu par les pouvoirs publics au prix habituel de 125 francs.
Oui.
Mais les boulangers ont trouvé des astuces pour changer mécaniquement, c'est-à-dire pour augmenter mécaniquement le prix. On a le sentiment que la baguette de pain a perdu de son corps, elle a baissé un tout petit peu de poids, elle n'est plus alvéolée, on n'a plus la bonne surface pour tartiner. Donc on achète la même baguette, mais on mange moins.
Ouais, ça, vous savez, en vous écoutant, Gabriel, Jean-Baptiste Coffi, qui représente les consommateurs de Côte d'Ivoire, sourit, mais il sourit, non pas parce qu'il se moque de vous, il sourit parce qu'il vit exactement la même chose ici, non ?
C'est une préoccupation partagée, c'est pourquoi nous insistons auprès de nos autorités pour qu'il y ait le suivi. Hein. Les contrôles sont importants, je parle de contrôles d'instruments de mesure qui ne sont plus en vigueur dans notre pays depuis quelques années. Nous avons plaidé pour que ça soit fait, mais jusque-là, ça traîne. C'est une façon, je dis, subtile d'augmenter le prix. Quand vous payez, vous ne recevez pas la quantité pour laquelle vous avez payé, il y a forcément inflation.
Ouais. Holocib, un mot de conclusion avant de rendre l'antenne.
Assez rapidement, oui, de dire que déjà l'Afrique en général et les sous-régions ouest-africaines en particulier doivent travailler pour augmenter les productions agricoles locales, à soutenir la petite agriculture, réduire la dépendance des importations qui sont très fortes, 80% pour certains pays, donc ce qui rend ces pays fragiles et exposés aux chocs internationaux. Il faut renforcer les programmes de protection sociale, comme on l'a dit, et nous sommes en train de travailler actuellement avec la CEDEAO sur une étude régionale qui va être présentée bientôt. Et une des pistes, justement, c'est juste de lever toutes ces barrières, notamment les barrières physiques qu'on a mentionnées, la fermeture des frontières, pour permettre aux produits agricoles, aux produits alimentaires de circuler librement dans le continent et dans l'espace sous-régional ouest-africain.
Merci infiniment, Holocib, d'avoir été avec nous en ligne de Dakar, conseiller régional du PAM pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Aimé Kouazan, le mot de la fin en tant que représentant du ministère du Commerce en Côte d'Ivoire.
Non, ce que nous souhaitons dire, c'est vraiment que la problématique de la vie chère est au cœur de l'action gouvernementale. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers les mesures, j'ai envie de dire, structurelles qu'elle a prises, devrait adresser de manière efficace cette problématique de la vie chère. Donc, et je pense que les résultats, je l'ai dit,
oui.
Bien que, je dirais, on peut avoir la perception des populations qu'on comprend. Hein,
bah, au
et
final,
qu'on
c'est quand même la ménagère qui absolument. Va acheter son poisson plus absolument. Cher ou son morceau de viande.
Absolument.
Donc,
c'est pour cela que le renforcement de la surveillance du marché est un axe majeur donc mis en œuvre actuellement par le gouvernement de Côte d'Ivoire.
Jean-Baptiste Coffi, des consommateurs.
Oui, je voulais dire merci pour l'occasion que vous nous avez donnée et insister auprès de nos autorités pour que la lutte contre la cherté de la vie ne soit pas focalisée seulement sur le prix. Il faut travailler sur la question de revenus, augmentation des revenus, amélioration de l'offre et puis amélioration de la concurrence entre les opérateurs pour que les prix soient tirés vers le bas.
Merci à tous les trois d'avoir été ce matin les invités d'Appel sur l'actualité. À partir de demain, nous serons à Nouakchott. Nous vous attendons nombreux, donc demain à 10h au centre culturel de la région de Nouakchott où nous dresserons ensemble un état des lieux de la situation en Mauritanie, à mi-chemin du premier mandat du président Al-Razouani. Quel bilan peut-on dresser de son action ? Venez donc nombreux participer à l'enregistrement de cette émission. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler qu'Emmanuel Bastide sera également sur place pour l'enregistrement de 7 milliards de voisins. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à présenter cette émission. Jessica Taïeb et Damien Houlès à la coordination avec Quentin Ferral et Adrien à Paris, Nicolas Benita, Arès Iradag et Benoît Vanderbroek pour les moyens techniques, Fouque Foller pour les réseaux sociaux. À suivre dans 10 minutes juste après le journal, Priorité Santé avec Caroline Paré. Très belle journée, à demain, prenez soin de vous.
Mastercard World Elite, la carte prestige de Banque Atlantique avec un accès à plus de 1000 salons d'aéroports Lansky, vous a proposé Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.